André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Les députés nationaux et ancien gouverneur du Nord-Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, demandent au gouvernement congolais de reconduire les décrets portant mesures d'allègement fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales en faveur des opérateurs économiques œuvrant dans les provinces sous état de siège. Dans une lettre adressée à la première ministre, dont une copie est parvenue vendredi à Radio Capi, l'élu du territoire de Beni sollicite également le renouvellement du décret portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier en vue de soulager les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de l'activisme des groupes armés. Quel tir faire de la requête du député national Karline Nzanzu Kasivita à l'endroit de la première ministre Judith Suminwa? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs de ce jour. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 089-55-98-337, 089-55-98-339. Billy Landry Betou est à la mise en onde de ce magazine. Paul Bagnyama et Jonathan Chimanga assurent le live de cette émission et Grace Mbouezolo en assure la réalisation et la coordination à la présentation Guy Maté.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, Channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de la requête faite par les députés nationaux et anciens gouverneurs du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, à l'endroit de la première ministre, afin de reconduire les décrets portant mesures d'allègement fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales en faveur des opérateurs économiques œuvrant dans les provinces sous état de siège, ainsi que les renouvellements du décret portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier a vu de soulager les populations du Nord Kivu et de l'Ituri victimes de l'activisme des groupes armés. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons ici au studio l'intéressé lui-même, le gouverneur Karline Nzanzu Kasivita, qui est actuellement député national élu de Beni Territoire. Bonjour, monsieur le député national Karline Nzanzu Kasivita.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission. D'abord, qu'est-ce qui motive votre démarche?
Merci beaucoup Guy Maté. Quand vous lisez les motivations qui avaient sous-tendu ou qui avaient prévalu pour que le gouvernement congolais puisse décider par décret de notre premier ministre à donner des allègements fiscaux à la population qui vit dans les deux provinces sous état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri. On avait évoqué les soucis d'abord d'appuyer les opérateurs économiques parce que leurs activités sont vraiment touchées par les différentes guerres, mais aussi les sécurités qu'il y a dans ces deux provinces. On avait évoqué le souci de soutenir les investissements, mais aussi d'améliorer surtout les conditions de vie de la population. Parce que nul n'ignore aujourd'hui qu'au Nord Kivu et à Ituri, que ce soit la guerre d'agression du Rwanda, que ce soit la guerre des ADF, que ce soit les sécurités causées par les groupes armés, tous ces événements influent sur la vie sociale de la population. Et il y avait un souci en 2024 par le gouvernement de pouvoir continuer à soutenir ces populations. Et aujourd'hui, vous n'allez pas peut-être dire le contraire, vous suivez la situation au quotidien, les conditions restent les mêmes. Les conditions de sécurité, les tueries des ADF, la pression de la guerre du M23 et le Rwanda sur la population du Nord-Kivu restent la même. Et donc, au regard de ces motivations, je crois qu'il est impérieux de continuer à soutenir ces peuples qui souffrent, qui sont meurtris depuis très longtemps. Il est important aujourd'hui que le gouvernement puisse continuer avec le même élan qu'en 2025 pour pouvoir soulager, accompagner cette population qui en a besoin. Et j'espère que la Première ministre devra écouter notre voix et nous souhaiterions vraiment que ça soit le plus vite possible pour continuer à accompagner la reconstruction même de certains villages détruits par les groupes armés.
Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer ce qu'a été l'impact de la première expérience sur les opérateurs économiques, hein, lorsqu'on a, n'est-ce pas, appliqué les décrets portant mesures d'allègement fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales, l'impact de cela sur les opérateurs économiques?
Oui, en fait, il faut avouer que quand l'économie est bonne, c'est le panier de la ménagère qui s'améliore. Il faut avouer qu'au Nord Kivu, par exemple, le prix des ciments avait baissé d'ailleurs, et le prix des tôles aussi. Le gouvernement ne s'était pas arrêté à regarder le secteur de la construction, cimenterie et la construction. Ils avaient aussi diminué les charges sur les carburants. Personne n'ignore l'impact quand le prix du carburant sur la vie au quotidien de la population. Si le carburant est, le litre de carburant n'est pas cher, le transport aussi va baisser, le prix des biens et services pourra aussi baisser. Aujourd'hui, malheureusement, pour le Nord Kivu, je l'ai souligné d'ailleurs dans ma lettre, que pour le Nord Kivu, le frais fonaire, qui est une parafiscalité, que le fonaire recevait du carburant, était réduit à 50%. Malheureusement pour le Nord Kivu, le gouverneur militaire avec ce gouvernement, au lieu de faire bénéficier la population de cet allègement, ils ont trouvé un mécanisme pour récupérer cet argent par la main gauche.
Les fonds fonaires.
En Ituri, ils ont augmenté la parafiscalité provinciale sur les carburants de 1000 dollars à 1500. Donc 500 dollars de plus sur un camion de 40 mètres cubes. Mais tout ça, si on a évoqué ça, c'est parce que c'est le consommateur, le dernier consommateur qui paye le prix, la population. Et ce qui est une contradiction de la motivation même des décrets que nous avions invoqués dans nos lettres, parce que ces décrets avaient comme motivation de soulager la population. J'ai même dit que quand vous regardez la vie au quotidien de la population du Nord Kivu, de l'Ituri, ces gens vivent de l'agriculture. Aujourd'hui, si quelqu'un peut construire une maison, si quelqu'un peut payer les études de ses enfants, si quelqu'un peut se faire soigner, parce qu'il faut l'agriculture, ils produisent du cacao, du café. Et dans ces pays, les gens ne comprennent pas l'impact de la forte fiscalité ou de la forte parafiscalité sur nos ressources. Pourquoi les gens préfèrent aller vendre le cacao en Ouganda, au Rwanda? Parce qu'effectivement, c'est plus facile d'exporter en bas prix en Ouganda qu'en RDC. C'est la raison pour laquelle à l'époque l'ancien ministre Vamuiti, quand il était ministre de l'agriculture, moi-même j'étais ministre provincial de l'agriculture, les discussions sur la loi, sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, sa philosophie était de voir comment valoriser nos productions à exportation, surtout le café, le cacao et le palmier à huile, diminuer des taxes sur l'exportation, et de tout l'État, il n'y avait pas de taxes sur l'exportation, des taxes de parafiscalité provinciale sur l'exportation des cacao et du café. Mais pendant la même période où le gouvernement veut diminuer, veut soulager et la population par la diminution de la pression fiscale. Au Nord Kivu, le gouvernement provincial militaire a demandé qu'on paye 10 dollars par tonne exporté du cacao et 5 dollars par tonne du café, ce qui alourdit les charges sur l'exportation. Mais ces charges-là sont recalculées sur les prix. Donc, celui qui perd, c'est l'agriculteur. Parce que c'est lui qui va subir cette pression sur l'exportation du café ou du cacao. Ce n'est pas l'opérateur économique. Mmh. C'est la raison pour laquelle...
Et celui qui subit la conséquence, c'est beaucoup plus les consommateurs finaux.
Les consommateurs finaux.
Que la population.
Oui, parce que l'acheteur fait les calculs du prix en fonction des charges qu'il a. Donc, si vous lui augmentez 5 000 dollars sur un conteneur ou bien 1 000 dollars sur un conteneur, il va recalculer ça sur le prix du revient ou d'achat plutôt de kilos de cacao. Et celui qui perd, c'est la population. C'est pourquoi, en tant qu'élu d'abord de cette région, mais aussi député national, je suis dans mes devoirs républicains de pouvoir rappeler au gouvernement que cette population mérite l'attention parce qu'elle souffre, mais aussi on ne peut pas contrarier la politique nationale dans les deux provinces. Du moment où le pouvoir central décide de soulager la vie de Congolais des Congolais qui vivent dans ces deux espaces, deux provinces sous état de siège, il ne faudrait pas, c'est pas politique, que ce soit les décideurs au niveau provincial qui contrarient la philosophie de la politique nationale.
Voilà, vous ne pensez pas qu'il faille envisager les mêmes faveurs pour les provinces comme le Sud Kivu, qui traverse aussi des moments difficiles depuis qu'il est sous occupation de la rébellion, mais aussi les autres parties du Sud Kivu qui ne sont pas sous occupation de la rébellion, mais qui, n'est-ce pas, connaissent un certain activisme des groupes armés.
De toute façon, il est du devoir du pouvoir central ou du pouvoir provincial d'accompagner la population. Les conditions du Sud Kivu sont presque les mêmes qu'au Nord Kivu, mais ici, les décrets se rapportent sur les provinces sous état de siège. Le Sud Kivu, à ma connaissance, n'est pas sous état de siège. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la reconduction de ces décrets. Mais il est de bon aloi pour le gouvernement de pouvoir accompagner et les opérateurs d'autres coins s'ils trouvent que c'est important. Il est vrai que sur le plan mobilisation des recettes, ça a une conséquence sur la diminution des recettes de l'État. Mais je crois que la reprise économique dans ces régions est plus importante parce que demain, la République pourra récupérer ses moyens autrement quand les affaires vont reprendre. Et quand les gens reconstruisent leur vie et leur maison, je crois que l'État gagne plus que d'avoir un 10 dollars sur la tête de ces Congolais qui souffrent.
Voilà, et si les décisions sont plutôt reconduites comme vous le souhaitez, comment pourra-t-on, n'est-ce pas, les appliquer dans une province comme le Nord Kivu, surtout la partie qui est sous occupation de la rébellion?
Bon, de toute façon, nous, on ne réfléchit pas en fonction de cette partie où il n'y a pas l'autorité de l'État. J'ai réfléchi en fonction où les gouvernement congolais exerce une autorité de l'État. Il faut avouer que ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu restent des Congolais. Nous souhaiterions que les choses puissent avancer et que ces gens puissent revivre la même quiétude que ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Lubumbashi, et c'est notre souhait.
Voilà, vous réclamez la sécurité financière, mais à côté de cela, il y a aussi cette sécurité physique d'eux-mêmes opérateurs économiques, mais aussi de leurs biens, cette sécurité des affaires qu'il faille aussi, n'est-ce pas, réclamer.
De toute façon, on ne peut pas penser que un décret pour des allègements fiscaux va nécessairement dédouaner l'État de ses responsabilités de défendre ce peuple. Ça, c'est une question de la dimension économique.
C'est une chose de réclamer les faveurs, n'est-ce pas, fiscales à la loi des opérateurs économiques, mais aussi une autre chose, c'est qu'il faut voir comment les sécuriser avec leurs marchandises, comment ils vont acheminer leurs marchandises jusqu'au point, n'est-ce pas, de consommation et tout ça.
C'est important et c'est une obligation pour l'État, parce qu'en fait, les gens doivent vivre. En dépit de la sécurité, les gens doivent vivre. Les gens doivent avoir la possibilité de se soigner, ceux qui sont à même de le faire. C'est pourquoi nous rappelons qu'il y avait déjà un accompagnement de l'État et que les conditions restent presque les mêmes. Et d'ailleurs, dans certains coins, les conditions se sont plus aggravées. Donc, il y a vraiment des raisons de pouvoir le faire. Mais l'ultime souci de la population, c'est d'avoir la sécurité totale. Ils n'ont pas totalement besoin des aides de l'État à tout moment. Il suffit, le meilleur aide qu'on peut faire, c'est la sécurité. La stabilité. Avant que cela n'arrive, il faut permettre que les gens aient la possibilité de survivre.
Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la requête faite par le député national et ancien gouverneur du Nord Kivu, Karine Zanzoukasivita, à l'endroit de la première ministre afin de reconduire les décrets portant mesures d'allègements fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales en faveur des opérateurs économiques œuvrant dans les provinces sous état de siège, ainsi que les renouvellements des décrets portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier en vue de soulager les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de l'activisme des groupes armés. Et on en parle avec notre invité qui est ici au studio, Karine Zanzoukasivita, député national élu de Beni Territoire. Il est également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 089-55-98-337, 089-55-98-337.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net.
Et là, on me signale que nous avons déjà quelques auditeurs qui sont en ligne, qui veulent intervenir. Et là, nous allons partir où on reste à Kinshasa, où Christian Kassessé nous attend. Christian Kassessé, bonjour.
Oui, bonjour, cher Dimaté. Mes salutations à l'invité, le compatriote Karli Kassivita.
Allez-y, Christian Kassessé.
Je voudrais en un mot dire que l'état de siège est un état exceptionnel. En réalité, il exige pour se faire aussi des mesures exceptionnelles en ce qui concerne l'organisation de l'État, assez compris également les régimes fiscaux. Je ne suis pas tout à fait contre la reconduction du décret portant mesures d'allègement fiscaux, douaniers et non fiscales dans les provinces sous état de siège. Cependant, il faut établir un distinguo. C'est là qu'on se retrouve dans les provinces sous état de siège, mais sous occupation rebelle et également sous l'autorité de l'État congolais. En ce qui concerne les territoires sous état de siège, mais sous occupation rebelle, quand bien même le gouvernement congolais peut maintenir ces mesures-là d'allègements fiscaux, les peuples qui vivent au niveau de ces territoires sous occupation rebelle ne va pas en réalité en bénéficier. Ce qui fait que il faut regarder cette mesure avec une certaine réserve. S'agissant également de prolongement du décret portant suspension de perception de la TVA à l'importation, le constat est le même. Mais ici, c'est qu'en réalité, l'État ne doit pas se contenter à décréter cette pas aussi contrôler en réalité si les peuples en bénéficient. Pourquoi? Parce que l'échelle ou l'unité de mesure de tout allègement fiscal doit être le panier de la ménagère. Mais vous vous rendez compte que le peuple achète carrément au même prix avant ces régimes fiscaux exceptionnels, tout comme après ou alors pendant ces régimes fiscaux exceptionnels. Et donc je crois qu'il y a une certaine méconduite de la part de ces administrations fiscales qui carrément foulent au pied ces régimes-là fiscaux exceptionnels tels que décrétés par le régime de Kinshasa. Je voudrais aussi dire à M. Karli Kassivita que, en réalité, la TVA, l'importation ne devait que concerner les denrées alimentaires. S'agissant des biens immobiliers ou de biens de la construction, les cimenteries, moi je ne vois aucune pertinence. Et donc je crois que cette mesure exceptionnelle ne concernerait que les biens, les denrées alimentaires à l'importation. Mais comme je l'ai dit, il ne suffit pas seulement de décréter ces régimes fiscaux exceptionnels, mais il faut aussi et surtout s'assurer que réellement ces sont appliquées et que les opérateurs économiques ajustent leur prix des biens et services à ces régimes fiscaux exceptionnels. Mais également, je voulais relever l'impertinence d'évoquer l'allègement fiscal pour les recettes non fiscales qui, en réalité, on le sait tous que elle ne frappe pas les impôts. Elle frappe d'autres recettes de l'État, notamment domaniales, les redevances dans certaines entreprises publiques ou sociétés commerciales. Et donc, je ne vois pas l'importance de pouvoir faire allusion aux recettes non fiscales. Et donc, merci. Je suis d'avis qu'il faut maintenir ce régime, il faut les reconduire, c'est-à-dire, vraiment, il faut étudier au cas par cas pour ce qui concerne les régions d'occupation rebelles. Merci beaucoup, cher Guy Martin.
Merci, Christian Kassessé. Je rappelle que vous interveniez depuis la ville de Kinshasa. Et on quitte Kinshasa pour l'Ituri où nous attend Sylvain. Sylvain Aguenorf, bonjour.
Oui, bonjour, cher Guimaté.
Vous avez la parole,
Sylvain. Oui, merci. Je voudrais saluer mon frère Karli Kassivita. Je salue la pertinence de ces interventions. Nous, déjà en 2018, surtout, vous savez que pour les touristes, c'est depuis décembre 2017 que la milice des Codeco a commencé à tuer les gens à Fataki. Et on a incendié des opérateurs économiques. Et notre organisation, les ambassadeurs de bonne volonté à l'époque, était déjà la première à solliciter du gouvernement. Non seulement qu'on parle d'allègements fiscaux, mais tout simplement qu'on parle de l'exonération sur certains produits en faveur des opérateurs. Si je ne me trompe pas, à l'époque, mon frère Kassipit était gouverneur du Nord Kivu. Et je travaille avec le gouvernement Manissan pour le compte de l'Ituri. Puisque, M. Guimaté, quand vous observez ce qui se passe dans cette région du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, sur le plan économique, ce qui supporte le poids de la violence armée, oui, visiblement, on peut parler des opérateurs économiques. Mais mon frère Kassi l'a très bien dit, ça veut dire que ce sont des consommateurs finaux. Et je vous informe que c'est en 2022 que nous avons mis en place une plateforme de coordination de défense des droits des consommateurs. Nous sommes en train de monitorer la violation des droits à la consommation des populations par le fait des activités criminelles, la Codeco, MV3, tous ces groupes armés qui sont ici.
Sylvain, lorsque vous dites non, vous faites allusion à qui?
Ce sont des organisations de la société civile que nous avons mises en place.
Ok.
Sous le leadership des ambassadeurs de bonne volonté que moi-même je dirige. C'est pour vous dire que la démarche doit aller au-delà des allègements fiscaux. D'ailleurs, je vais vous surprendre, M. Guimard. Dans cette démarche des allègements fiscaux, il faut penser réparation des opérateurs économiques par le gouvernement de la République. Tenez, puisque nous parlons de l'économie, toute chose est égale par ailleurs, ce qui se recherche, c'est les bénéfices. Maintenant, non seulement il y a perturbation sécuritaire, mais il y a des dégâts économiques majeurs commis par les groupes armés. J'ai dit ici le cas de l'Ituri, il y a des opérateurs économiques qui payent des frais à partir des colis, si nous sommes sur la RM27, jusqu'au niveau de la ville de Bounia. Mais c'est dit, je ne sais pas si vous avez une idée sur ce que ces groupes armés perçoivent auprès des opérateurs économiques. Ça varie entre 100 000 à 500 000 francs par véhicule. Et lorsqu'on parle des allègements fiscaux, moi je me dis qu'il faut aller très loin. C'est comme ça que je sollicite auprès de mon frère Kassivita. Au sein du Parlement, il ne faut pas qu'on s'arrête au niveau seulement des allègements fiscaux, mais il faut qu'on parte vers l'exonération des opérateurs économiques de cet espace Grand Est, Nord, Sud, Kivu, Ituri, pour certains produits spécifiques, mais aussi envisager dans les temps à venir comment est-ce que la République doit réparer les opérateurs économiques. Je préfère m'arrêter là.
Merci beaucoup, Sylvain Aguenoff. Je rappelle que vous avez intervenu depuis Ituri. Nous quittons l'Ituri pour Kisangani dans la Tchopo, où Blaise Saïdi nous attend. Blaise Saïdi, bonjour.
Bonjour, cher Guimaté.
Vous avez la parole, Blaise Saïdi.
Oui, merci beaucoup pour m'associer à cette émission. Cher Guimaté, nous saluons d'abord le gouverneur honoraire. La réponse du député national est Karim Zanzou. Bien qu'animé par la volonté de soutenir l'économie locale.
Nous avons du mal à vous comprendre. Hein. Essayez de bouger un peu. Hein. Ou alors, je ne sais pas si vous avez activé les modes main libre. Parlez normalement au téléphone.
Voilà, là, ça va?
Oui, ça va maintenant. Allez-y.
Oui, j'allais dire que non, la requête du député national Karim Zanzou, Kassivita, bien qu'animé par la volonté de soutenir l'économie locale, peut aussi être interprété comme une solution ponctuelle et insuffisante aussi face aux problèmes structurels des provinces sous état de siège. La simple reconduction d'allègements fiscaux et douaniers ne règle pas les problèmes sécuritaires persistants, ni ne garantit un véritable développement économique et durable, cher Guy. Ces mesures risquent de devenir un passement temporaire qui profite surtout aux entreprises déjà établies sans créer des transformations profondes dans l'économie locale ni améliorer significativement la vie des populations vulnérables. Cher Guy, à mon avis, le soutien économique isolé ne suffit pas dans un contexte marqué par l'insécurité et la fragilité institutionnelle. Reconduire les décrets sans stratégie parallèle pour renforcer la sécurité, l'accès aux services publics et l'investissement local risque de maintenir un statu quo où les entreprises survivent, mais plutôt combiner ces allègements avec des réformes structurelles, cher Guimaté. Permettez-moi de demander d'abord une question à l'honorable Karim Zanzou. Quelle alternative ou mesure complémentaire pourrait avoir un impact plus durable sur l'économie locale? Je me limite à ce niveau-là, cher Guimaté.
Merci beaucoup. Voilà, nous quittons. Ça, c'était Blaise Saïdi qui intervenait depuis Kisangani dans la Tchopo. Nous quittons la Tchopo pour le Sud Kivu où Emina Mwanda nous attend. Emina Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Guimaté. Bonjour à l'honorable. Bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne, particulièrement à Grâce Bonzolo.
Allez-y, Emina Mwanda.
Je sais très bien qu'on dit souvent que pas en table, mais c'est en prison qu'on est amis. Parce que, surtout les provinces touchées par l'insécurité, toute initiative visant à alléger la peine que ces provinces sont en train de subir serait la bienvenue. J'encourage vivement l'initiative de l'ancien gouverneur du Nord Kivu sur les allègements fiscaux pour les zones en crise. Un soulagement économique ou une solution temporaire, ça c'est d'abord c'est par là que je vais commencer. Parce que la demande du député vise à reconduire les mesures fiscales exceptionnelles en faveur des provinces du Nord et Sud Kivu, du Nord plutôt, du Nord Kivu et de l'Ituri, encore sous état de siège. Il plaide pour la suspension de la TVA sur certains biens essentiels comme ciment, matériaux, ainsi de suite. Des allègements fiscaux douaniers et non fiscaux pour les opérateurs économiques. Il y a aussi le soutien en direct aux populations civiles victimes de l'instabilité. Un plaidoyer réaliste et justifié dans un contexte de guerre prolongée, l'économie locale est actifiée plutôt. La mesure permettrait de maintenir un minimum d'activité économique et d'atténuer la cherté de vie dans ces provinces. Le soutien aux investissements locaux, aux autres investissements locaux, les opérateurs économiques continuent à travailler malgré l'insécurité. Pour tout dire, la requête de l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu est pragmatique dans un contexte de crise. Elle appelle le gouvernement à soutenir concrètement les zones meurtries au-delà du discours. Toutefois, il faut accompagner ces mesures de mécanismes de contrôle stricts et surtout accélérer la sortie de l'état de piège.
Merci. Merci beaucoup, cher Mina Mwanda. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Monsieur le gouverneur honoraire député national de Karine Zazoukassivita, vous pouvez répondre à toutes ces réflexions, n'est-ce pas, émises par Christian Kassessé depuis Kinshasa, Sylvain Aguinoff depuis Litori, Blaise Saïdi depuis Kisangani et Mina Mwanda depuis Bukavu.
Merci. Je voudrais d'abord saluer la pertinence des analyses de certains amis qui ont intervenu, celui de Kinshasa, celui de Bukavu, mais aussi celui de Litouri. Parce qu'au fait, si vous avez bien compris...
Et Kisangani également.
Et Kisangani. Si vous avez bien suivi celui de Litouri, c'est la voie de la détresse de toute cette population qui souffre... des affres de la guerre, et l'idée aujourd'hui c'est d'accompagner cette population. Je voudrais rencontrer les préoccupations de notre ami de Kisangani. On n'a pas dit que la reconduction...
Non, par rapport à Litouri d'abord, il a dit pourquoi on ne peut pas envisager d'aller au-delà, c'est-à-dire que envisager une exonération.
J'y arriverai, mais je voudrais d'abord rencontrer la préoccupation de notre ami de Kisangani qui a émis l'inquiétude de pouvoir considérer que c'est la solution ultime. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que la reconduction du décret va résoudre tous les problèmes structurels. Ça serait se tromper. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction. Cela n'exonère pas l'État congolais à pouvoir envisager des mesures de sécurité appropriées pour ces espaces-là, parce que la population n'a pas dit qu'elle s'accommode à cette sécurité, qu'on n'a plus besoin d'autres accompagnements. On a besoin que la République soit sécurisée, on a besoin que ces espaces puissent être sécurisés comme d'autres espaces congolais, pour que demain, on parle de développement, on parle autre chose. Et la guerre n'est pas bonne, évidemment, pour l'émergence d'une économie solide. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais avait, en 2024, signé ce décret, malheureusement, qui par le décret numéro 24 du 21 novembre, malheureusement, qui a expiré au mois de novembre 2025. C'est la raison pour laquelle nous demandons la reconduction, parce que ce décret a permis à ce que il y ait quand même cette mobilisation de la population, surtout pour la reconstruction. Je vous ai même dit qu'il y a eu des incidences sur le prix de la ménagère, en dépit de ce que j'ai soulevé comme entorse dans l'exécution, parce que le carburant c'est un produit stratégique qui devrait contribuer évidemment à la baisse de certains produits, surtout les biens. Parce que tout est lié au transport, tout est lié au prix du carburant. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté que si le gouvernement central pourrait reconduire ce deux décrets, il faudra aussi veiller sur l'exécution.
Un mécanisme de contrôle comme le propose Eminem Mwanda depuis longtemps.
Oui, c'est pourquoi je suis là comme député national, parce que nous avons aussi la responsabilité de contrôler le gouvernement. J'encourage les mesures que le gouvernement avait prises dans l'État, et certaines mesures sont encore en cours. Par exemple, pour le décret numéro 25, les mesures sont encore en cours jusqu'au mois de février. Mais il faudrait que c'est le premier qui a expiré, que ça soit reconduit, et l'autre qui expire au mois de février 2026, pour continuer à soutenir cette population. Il est vrai que la demande de la population du Kivu, de l'Ituri, était de voir le gouvernement déclarer cette zone sinistrée pour qu'il y ait plus de mesures d'accompagnement. Mais il faut aussi avouer que un pays comme la RDC qui subit la guerre a besoin plus de soutien. C'est la raison pour laquelle, je crois, on a commencé par les allègements fiscaux, parce qu'on ne peut pas vraiment, je ne m'imagine pas que la question de l'exonération pourrait être généralisée. Ça peut être étudié sur certains produits comme l'a proposé notre ami. C'est la raison pour laquelle j'insiste que pour des productions locales qui permettent que les gens vivent, comme l'agriculture, c'est pas nécessaire aujourd'hui que l'État congolais, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau provincial, puisse surcharger ces secteurs primaires par des taxes ou des parafiscalités qui n'ont que comme conséquence repousser les achats sur tout ce que nous ne consommons pas localement, ce que nous vendons à l'extérieur, parce que plus le prix est diminué, les gens ont tendance de faire la fraude. C'est la raison pour laquelle certains agriculteurs ou certains commerçants peuvent chercher à aller vendre les cacao en Ouganda, parce que le prix, il est plus alléchant en Ouganda qu'en RDC.
Voilà, Sylvain Aguenoff qui a proposé l'exonération, lui a aussi demandé si on peut envisager les réparations, n'est-ce pas, à l'endroit des opérateurs économiques par le gouvernement central. Ça. Et pourquoi ne pas aussi envisager une sorte de plan de relance économique pour toutes ces provinces, pas seulement les Turi, les Nord Kivu, mais aussi les Sud Kivu, hein, ces trois provinces, n'est-ce pas, qui sont victimes de l'activisme des groupes armés.
C'est l'idéal, et ça serait l'équité pour tous ces opérateurs économiques qui perdent leurs biens dans les effets de la sécurité. Je vous donne un fait. Il y a des importateurs qui perdent eux le marchandise et leurs véhicules brûlés sur nos routes au nord Kivu.
Et même leur vie.
Et leur vie. Et je crois que ça serait de l'équité si l'État pourrait être à même d'accompagner ses compatriotes. Certes,
vous pouvez faire de cela votre bataille, votre cheval de bataille, n'est-ce pas, les plans de relance économique pour toutes ces provinces-là.
On avait déjà, je vous dis que moi, quand nous étions gouverneurs à l'époque, il y avait une réflexion d'ailleurs qui a amené aujourd'hui et la naissance de PDDRSS. Parce que nous avions réfléchi le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu pour voir comment d'abord diminuer l'incidence des groupes armés sur la vie des Congolais. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas envisager une relance là où les groupes armés circulent. Il faut d'abord arrêter les armes et envisager la réinsertion de ces enfants qui sont dans les groupes armés. Et la conséquence logique, quand on fait la réinsertion, c'est cette réinsertion aura des incidences sur l'économie locale. C'est pourquoi je pense que la priorité, c'est d'abord terminer ces zones de conflit, ces troubles de conflit et tout, la guerre. Il faut sécuriser ces espaces pour permettre qu'il y ait une explosion. Le facteur économique de cette région sont les gens. Les gens sont d'abord engagés à chercher l'argent. Les gens sont agriculteurs, les gens sont au laissant de faire le business.
Mais on a vu récemment, quand la province du Nord Kivu a connu une période d'accalmie d'environ 7 ans, on a vu comment est-ce que la ville de Goma s'est développée. Et donc, il suffit de leur laisser un peu de temps, de paix, de stabilité, et ils vont se développer.
Je crois qu'ils sont, ils sont engagés à faire ça.
Voilà, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Radio Capi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la requête faite par les députés nationaux et anciens gouverneurs du Nord Kivu, Kalinzan Zoukasivita, à l'endroit de la première ministre, afin de reconduire les décrets portant mesures d'allègement fiscaux, douaniers et de recettes non fiscales en faveur des opérateurs économiques œuvrant dans les provinces sous état de siège, ainsi que les renouvellements du décret portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier, en vue de soulager la population du Nord Kivu et de l'Ituri, victime de l'activisme des groupes armés. On en parle avec notre invité qui est ici au studio, Kalinzan Zoukasivita, député national élu des Beni Territoire. Il est gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 089-55-98-337. 089-55-98-337.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retournons à notre standard où nous attendent beaucoup d'auditeurs. Là, nous allons, nous restons à Kinshasa avec Obed Boissa. Obed Boissa, bonjour.
Oui, bonjour Guy Mathieu, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, Obed Boissa.
Et en tout cas, salut l'invité et merci de m'avoir accordé la parole. Je pense que la requête du député Kalinzan Zoukasivita peut être interprétée comme, un appel à une réponse économique d'urgence face à la crise sécuritaire persistante et dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et cela doit être quand même perçu des deux points de vue. J'aimerais ici évoquer son engagement ou essayer d'exercer donc une sorte d'interpellation politique vis-à-vis donc du gouvernement. Cette demande peut aussi être en vue comme une mise en pression sur l'exécutif et pour qu'il ne se contente pas des mesures militaires sous l'état de siège, mais qu'ils adoptent aussi des réponses économiques concrètes. Il y a aussi l'idée ici sur cette interpellation d'une vision de développement malgré la crise, car ça rentre dans les cadres de ses attributions aussi comme mission en tant que député, donc démontrer une volonté de continuer à planifier les développements économiques même à contexte des guerres. Cela renvoie à l'idée que il faudrait qu'il y ait un signal fort des résiliences dans les provinces en place.
Merci Obed Boissa. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Nous quittons Kinshasa pour Bounia dans l'Ituri, donc on retourne à l'Ituri dans la ville de Bounia où Georges Kilangalanga nous attend. Georges Kilangalanga, bonjour.
Bonjour M. Guilaté, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Je fais mienne toutes les contributions de mes prédécesseurs, mais je pense que M. Kalinzan Zoukasivita, dont son initiative est à saluer. Mais la première question qu'on devrait se poser, il faut d'abord parler de l'évaluation. La mesure a été prise depuis l'année passée. Jusqu'aujourd'hui, elle est arrivée à terme. Question qui se pose, il ne suffit pas de prendre des décisions sans les évaluer. Nous qui sommes ici, poser la question à toutes les provinces de l'Est que moi j'ai déjà visité, la ville de Bounia, c'est une ville où la vie coûte énormément cher. Et apparemment, la guerre que nous subissons actuellement vient avec avec beaucoup de conséquences sur la vie socio-économique. Et la population ne sait pas à quel sens c'est voué. Par exemple, aujourd'hui, vous quittez Bounia pour Chomia, c'est une affaire de 57 kilomètres. Mais vous trouvez plus de 20 barrières et dans chaque barrière, vous payez l'argent. Donc, la vie est intenable, le prix est hors des bourses. Mais au lieu d'évaluer, parce que c'est ça la question qu'on devra se poser, il faut évaluer avant la mesure et après la mesure. Il faut se poser la question sur l'évaluation.
Georges Kilangalanga,
il faut d'abord l'évaluer.
Georges Kilangalanga, si vous étiez là au début de l'émission, on a posé la question à l'invité sur l'impact, n'est-ce pas, de ces mesures sur la population. Il a évoqué notamment le fait que les prix de certains biens ont baissé, comme les ciments, comme les tôles. Voilà. Donc il y avait un impact. Il a eu le temps d'évaluer, n'est-ce pas, l'impact de ces, les résultats, n'est-ce pas, de ces mesures sur la population. Allez-y.
Mais c'est toujours facile, hein, c'est toujours facile de faire une évaluation quand on est à Kinshasa, parce qu'on a l'impression que ceux qui sont à Kinshasa et ceux que nous vivons sur le terrain, il y a une totale différence. Tu vois? Donc, j'ai dit à monsieur l'invité de faire bien son évaluation et il va comprendre que ça ne résout pas le problème. Je pense que le budget a été voté. C'est là où les choses devraient se faire, parce qu'un pays travaille avec le budget. Quand on a fait le débat sur le budget, on n'a pas entendu ce genre de débat. On n'a pas entendu ça. C'est là que M. Karine Zanzou devrait intervenir pour inciter le gouvernement à prendre des mesures pour alléger quand même la charge fiscale pour nous, les populations de l'Est. Mais on ne l'a pas entendu. Aujourd'hui, la loi est déjà presque votée parce que c'est comme ça. On a fait ce qu'on a fait, comme on le fait, c'est une formalité. Mais on n'a pas senti vraiment des mesures qui tendent à alléger la charge fiscale. Et pour nous qui vivons à l'Est, et c'est vraiment dommage, c'est là qu'on attendait vraiment le député.
Merci, Georges Langalanga. Je rappelle que vous interveniez depuis la ville de Bounia dans l'Ituri. On quitte l'Ituri pour Bandundu, avec Bounia pour Bandunduville, où Pati Maïmba nous attend. Pati Maïmba, bonjour.
Bonjour, cher Guy Maté. Bonjour à notre invité qui est sur la table de
vous. Vous avez la parole, le patron.
Nous avons suivi, en quelque sorte, les soucis de notre invité comme étant député national. Vraiment, c'est bon. Mais ce que j'aimerais dire ici, cher Guy, vous ne trouverez jamais un médecin sérieux aller s'occuper des symptômes au lieu et place de la maladie. Cher invité, Vous êtes bien informé de la situation qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui est à la base de tout ce qu'on décrit, que vous décriez aujourd'hui? C'est de l'insécurité. Votre régime de l'immense sacré, vous aviez pensé à placer ces deux provinces-là sous l'état de siège. Mais bientôt 6 ans, il y a quoi comme évaluation? La situation de l'insécurité s'empire ou il y a évolution? Donc, apparemment, vous êtes tellement distrait. Apparemment, vous êtes distrait. Chers députés, nous vous attendons à
Vous ne pensez pas que vous utilisez des mots durs, là. Être distrait pour quelqu'un qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de demander à la Première ministre d'accorder certaines faveurs aux personnes qui traversent des moments difficiles à cause de l'insécurité. Vous dites qu'il est distrait. Est-ce que ce n'est pas trop dur, de votre part?
Bon, je retire cela, mais je réponds dans ce sens. C'est trop dérisoire, pour ne pas dire qu'ils sont discrets, ils sont un peu superficiels. C'est ce que nous attendons de nos parlementaires, ce n'est pas ça. Ils devraient nous dire l'état de siège a produit quoi. Depuis qu'il y a l'état de siège, voilà comment nous souffrons, voilà comment nos frères souffrent. Récemment, ici, ils sont allés signer des accords avec nos bourreaux qui nous tuent chaque jour. Ils se sont entendus comment, quels mécanismes ont-ils pris?
Ce n'est pas ça le sujet du jour. Nous sommes dans les faveurs qui sont, n'est-ce pas, demandées à la Première ministre pour les opérateurs économiques des provinces sous état de siège. On ne parle pas de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC.
Non, c'est pourquoi, dès mon intention, j'ai dit un bon médecin ne s'occuperait jamais des symptômes. Donc, tout l'allègement là, c'est. Ce sont les symptômes. Mais
merci.
Les noyaux, c'est quoi? C'est de l'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait la sécurité? C'est ça où vous devez d'abord se poser les problèmes. Et devrait se demander d'abord, nous avons fait quoi pour qu'il y ait la paix?
Parce que on a compris, il va vous répondre. Et on prend les derniers auditeurs qui interviennent depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. C'est docteur Michael Bolingo. Bonjour, docteur Michael Bolingo.
Bonjour, très cher. Oui, j'ai ça que je fais.
Allez-y.
Non, c'est pas vraiment ce qui forme le pays, c'est quelque chose à trajet. Alors, je vois comme si les...
Voilà, sa ligne n'est pas bonne. Monsieur le gouverneur honoraire, député national Kalinzanzo Kasivita, vous pouvez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion des Obed Boïssa depuis Kinshasa, Georges Kilangalanga depuis Bounia et Patti Maimba depuis Bandunduville. Allez-y.
Je voudrais d'abord apaiser notre frère de Bandundu, Patrick, si je ne me trompe.
Patti Maimba.
Patti, ok. Je voudrais les rassurer que la demande que nous faisons a des effets sur l'économie locale dans ces deux provinces. J'ai bien souligné que pendant l'exercice 2025, certains prix des biens ont baissé. Le ciment, le fer à béton, le tôle, et on devrait même avoir d'autres conséquences assez intéressantes en termes de chute des prix sur les deux gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri n'ont pas pu augmenter de parafiscalité sur les carburants, parce que les carburants c'est un facteur moteur.
Vous ne pensez pas qu'il faille aussi, que ce soit aussi de votre devoir, vous députés nationaux, de pouvoir faire les suivis pour voir si réellement les mesures sont respectées sur le terrain et si ces mesures-là atteignent les objectifs qui ont été, n'est-ce pas, assignés, et soulager, n'est-ce pas, les populations de ces provinces?
Oui, c'est parce que nous avions fait les suivis que nous avions pu constater que les décrets, surtout 24, n'a pas été respecté dans les deux provinces. C'est parce que nous avions fait les suivis que nous avions constaté que le prix de certains produits au PIBC et c'est important pour cette population qui sont dans qui sont très résilientes. Hein. Les gens croient que nous avons dit que ces mesures vont remplacer le mesure défensive que l'État central devrait déployer pour lutter contre les ADF, contre les groupes armés. Non, ça, c'est pour rencontrer les sociales et la motivation que nous avions soulevée était claire. Nous voudrions bien aider, soutenir cette population qui souffre.
Un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je crois que notre ami de Bounia a dit des choses qu'il faut bien comprendre. La structure de prix établi par les commerçants peut subir des facteurs à cause de ces différentes barrières. Mais l'objectif pour le gouvernement était de soulager la population et nous avons bien intervenu lors du budget de la cohérence de la politique du gouvernement central avec avec le province.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité qui intervenait depuis notre studio, Kali Nzanzo Kasivita, député national élu des Béni Territoires. Il est gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Billy Landry Betou qui est à la technique, et à Jonathan Chimanga qui a assuré les lives de cette émission et Grace Mwezolo qui en a assuré, n'est-ce pas, la réalisation, la coordination sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus. C'est bonne suite de programme sur Radio Capi.